Vous êtes bien sûr Esprit Occitanie. Francis Ricard, bonjour. C'est l'émission La poésie chiche.
Je voudrais vous parler aujourd'hui de Charles Baudelaire. La société aime ce qui l'enchante, mais elle déteste les désenchanteurs. Ceux qui lui disent « voilà, c'est comme ça, c'est pas beau, c'est sale, c'est triste, la vie est cruelle et absurde ». Les désenchanteurs comme Cioran, Calaferte, Thomas Bernard, voire le Sartre de la Nausée ou le Camus de l'étranger, c'est des enchanteurs comme Baudelaire, et Baudelaire est de ces écrivains-là. Désenchantés et désenchanteurs. Baudelaire est né en 1821, la même année que Flaubert, et étrangement, ils auront tous les deux un procès pour leur œuvre principale, la même année, lors de la parution de Les fleurs du mal pour Baudelaire et de Madame Bovary pour Flaubert. Flaubert est né en 1821, je l'ai dit, et il est mort en 1867, à 46 ans. Alors je ne voudrais pas trop psychologiser l'approche de l'œuvre de Baudelaire, mais bon, il faut quand même préciser que Baudelaire est né d'un père âgé, qui avait 62 ans, je pense, à la naissance de son fils, qu'il avait déjà eu un fils, donc le demi-frère de Charles Baudelaire, Alphonse, et donc Baudelaire a grandi avec ce frère, même s'il était plus âgé que lui, que ce père est mort alors que Baudelaire avait 6 ans. Donc c'est très jeune, effectivement, pour perdre son papa. Que sa mère s'est remariée, assez vite d'ailleurs. Il faut dire qu'elle était beaucoup plus jeune que son père. Et elle s'est remariée avec un dénommé Jacques Opic, qui est un monsieur qui avait son âge, 35 ans. Hein. Caroline et Jacques se marient à 35 ans. Et ce monsieur Opic, il est à la fois général d'armée. Il a combattu sur de nombreux fronts. Ensuite, il va être nommé commandant de Polytechnique. Il sera ambassadeur à Madrid, sénateur, ministre plénipotentiaire. Et il ne supportera pas la présence de Charles auprès de lui, bien qu'il l'aimera et qu'il l'aidera en grande partie toute sa vie. Et cela a entraîné que le petit Charles a été mis en pension de la 6e à la terminale, et en pension pendant des mois entiers, sans voir sa famille. Nous en reparlerons. Il a été mis en pension d'abord à Lyon, où son père et sa mère, son père était, enfin, Monsieur Opic, était en garnison, et puis il a été ensuite mis en pension à Paris, au lycée Louis-le-Grand, lorsque son père a été nommé à Paris. Dans un livre de Pierre-Jean Jouve, qui s'appelle « Le tombeau de Baudelaire », Pierre-Jean Jouve décrit un Baudelaire qui aurait vécu toute sa vie masqué. Je ne suis pas trop d'accord avec cette thèse. Pour moi, ce n'est pas Baudelaire qui est masqué. Mais c'est la réalité qu'on nous masque. La réalité qu'on ne veut pas voir. Et que Baudelaire démasque. Je dirais que le romantisme a masqué la réalité. Et Baudelaire va la dénoncer. En montrant, à son grand regret, en montrant la réalité telle qu'elle est. Comme Flaubert, hein, je le disais, né la même année, et qui publie Bovary, la même année que Baudelaire. Et qu'est-ce que c'est que Bovary? C'est la réalité la plus crue qui est jetée à la face des lecteurs. Et les deux auteurs se retrouvent au tribunal, je l'ai dit, pour tous les deux, pour outrage aux bonnes mœurs. et auront à payer une amende, à retirer des pages des textes. Le premier qui dit la vérité, dit la chanson, il doit être exécuté. Le pouvoir n'aime pas les lanceurs d'alerte. Eux-mêmes, on pourrait dire, ne s'aiment pas non plus. Cette réalité qui leur saute à la figure n'est pas forcément pour leur plaire. L'hypermétrope voit plus et mieux. L'hypermétrope peut-être voit trop. Et le commun préfère se mentir. Baudelaire est un désenchanté, victime de la maladie du désenchantement. Maladie d'idéalité, inapte au bonheur. Il n'y peut rien, il est le premier à en souffrir. Et tous ses poèmes vont, presque tous ses poèmes, vont tenter de dire cette triste réalité. Le drame de Baudelaire, il est indiqué, on pourrait presque dire, d'une part par la dédicace des Fleurs du Mal, dédicace à Théophile Gautier, dans laquelle Baudelaire écrit au poète impeccable, maître et ami Théophile Gautier, « Je dédie ces fleurs maladives ». Et la première partie des Fleurs du Mal, la partie la plus importante, s'intitule « Spleen et idéal ». Il faut imaginer ces deux mots, « spleen » et « idéal », comme deux aspirations. C'est-à-dire, d'ailleurs dans un texte autre que les Fleurs du Mal, c'est-à-dire dans « Mon cœur mis à nu », Baudelaire écrit « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. » On voit donc tout de suite un moi écartelé entre deux aspirations ou deux postulations, l'une vers le bien, l'autre vers le mal, auxquelles correspondent donc, on peut imaginer ça, vers le haut, l'idéal, qui sera peut-être Dieu, en tout cas qui sera le bien, le travail, la vertu, la vie raisonnable, et vers le bas, le spleen qui est le mal, qui est destructeur, négatif, violent, et donc le poète est en permanence écartelé entre ces deux aspirations, et généralement c'est le mal qui l'emporte chez Baudelaire, comme s'il n'arrivait jamais à s'élever vers ce bien qu'il cherche. Et qu'il... Les Fleurs du Mal sont précédées d'un poème célèbre qui s'appelle « Au lecteur ». Je lis juste quelques vers. « La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. » Et cette préface au lecteur s'achève par ces vers célèbres. C'est l'ennui. Il en est un, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. L'ennui. L'ennui, le grand mal pour Baudelaire et cette incapacité toute sa vie, donc à s'arracher à cet ennui et à ce spleen, comme il l'a souvent nommé. Cette maladie propre à Charles Baudelaire, elle est inscrite très très tôt dans sa vie, puisqu'on a la chance de posséder sa correspondance, et en particulier sa correspondance d'enfant, lorsqu'il est interne. Donc à Lyon, puis ensuite à Paris, il écrit à ses parents qui viennent le voir très rarement. Il faut imaginer un internat assez dur où on ne sort pas souvent, sauf si les parents viennent vous chercher. Et Baudelaire, dans ses lettres, dès les premières lettres, hein, alors qu'il est tout petit, la première lettre date de qu'on possède, date de 1832, donc il a 11 ans. Et très tôt, il évoque donc ses journées de lycée. Nous sommes 44 en sixième. Remarque-le bien, parce que cela peut m'excuser tant soit peu pour les places fort médiocres que j'ai eues. Il me coûte réellement de les dire. Allons, courage. Dans ma première composition, j'ai été 28e et dans ma seconde, 21e. Pardonne, je te prie, ces deux places fort médiocres pour quelqu'un qui a été second, il est vrai, en septième. Et là, il est en sixième. Alors, je voudrais lire quelques textes de ces fameuses lettres, mais tout le long, il s'accuse, hein, de sa paresse. Tout le long, il se lamente des mauvaises notes qu'il obtient. Et tout le long, il promet, je ferai tous mes efforts. C'est vrai que j'ai obtenu ces avantages sans me donner grand-peine. Je n'ai rien fait toute l'année, mais j'ai eu de bonnes places qui prouvent que je puis faire. Et puis, une lettre peut-être un peu plus développée. Il écrit le 25 février 1834, il a donc 13 ans. Il écrit à Monsieur et Madame Opic, donc sa mère et le monsieur avec qui elle s'est remariée, Monsieur Opic. Je vous écris cette lettre pour tenter de vous persuader qu'il y a encore quelque espérance pour me tirer de l'état qui vous fait tant de peine. 13 ans. Je sais que dès que maman lira le commencement de cette lettre, elle dira « Je n'y crois plus ». Que papa dira la même chose. Mais je ne me décourage pas. Vous ne voulez plus venir me voir au collège pour punition de mes sottises. Mais venez une dernière fois pour me donner de bons conseils, pour m'encourager. Toutes ces sottises viennent de mon étourderie et de mon lambinage. Quand la dernière fois encore je vous ai promis de ne plus vous donner de chagrin, je parlais de bonne foi. J'avais la résolution de travailler et de travailler ferme pour que vous puissiez dire « Nous avons un fils qui reconnaît nos soins ». Mais l'étourderie et la paresse m'ont fait oublier les sentiments qui me possédaient quand je promettais. Ce n'est pas mon cœur qu'il faut corriger, il est bon. C'est mon esprit qu'il faut fixer, qu'il faut faire réfléchir assez solidement pour que les réflexions y restent gravées. Vous commencez à croire que je suis un ingrat. Vous en êtes peut-être bien persuadé. Comment vous prouver le contraire? Je sais le moyen, c'est de travailler, travailler sur le champ. Mais quoi que je puisse faire, ce temps que j'ai passé dans la paresse et l'oubli de ce que je vous devais sera toujours une tâche. Comment vous faire oublier en un moment une mauvaise conduite de 3 mois? Je le sais, c'est pourtant ce que je voudrais. Rendez-moi tout de suite votre confiance et votre amitié. Venez me dire au collège que vous me les avez rendues. Ce sera le meilleur moyen de me faire changer aussi en un moment. Vous avez désespéré de moi comme d'un fils au mal duquel on ne peut remédier et auquel tout est devenu indifférent, qui passe son temps dans la paresse, qui est mou, lâche et n'a pas le courage de se relever. J'ai été mou, lâche, paresseux. Je n'ai pensé à rien pour un certain temps, mais comme rien ne peut faire changer le cœur, mon cœur qui, malgré ses défauts, est sur mon côté, m'est resté. Il m'a fait sentir que je ne devais pas désespérer de moi-même. J'ai pensé que je pourrais vous écrire et vous communiquer les réflexions que m'avait suggéré l'ennui que me procure une vie passée dans la paresse et les punitions. Le cœur n'y est pour rien. Un naturel léger, un penchant invincible à la paresse, m'a fait commettre toutes ces fautes. Soyez-en bien persuadés. N'oubliez pas que ce fils a encore du cœur. C'est au plaisir de vous voir que je suis sensible, au plaisir de causer avec vous pendant un jour, aux louanges que vous pouvez me donner sur mon travail. Je vous promets de changer, mais ne désespérez pas de moi et comptez encore sur mes promesses. Charles. Voilà une lettre écrite à 13 ans, mais qui contient tout ce que sera Baudelaire toute sa vie. Incapable de travailler, toujours en manque d'argent, se complaisant dans les sottises, fréquentant les prostituées, fumant et consommant du haschich et de l'opium. Et jusqu'à la fin de sa vie, il demandera de l'argent et il mènera cette vie de bohème très, très, très malheureux. Voilà, je vous propose de faire une première pause et je vous propose d'écouter une chanson de Serge Reggiani qui nous mettra sur la voie des poèmes de Baudelaire, puisque cette chanson de Reggiani, Sarah, commence par un extrait d'un poème de Charles Baudelaire qui n'est pas dans Les Fleurs du Mal, qui est dans les Mon cœur mis à nu, et qui s'appelle aussi Sarah. Voilà. Donc Sarah par Serge Reggiani.
Si voilà rencontrer, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour. La bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné. Le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassurent.
Je vais m'attacher maintenant à montrer comment les poèmes de Baudelaire sont la plupart du temps révélateurs de cet esprit dont il nous a parlé. Dans Le Mauvais Moine, Baudelaire écrit « Mon âme est un tombeau que mauvais cénobite depuis l'éternité je parcours et j'habite. Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Ô moine fainéant, quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère, le travail de mes mains et l'amour de mes yeux ?» Et le poème qui suit, l'ennemi, commence par ces vers. « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait de tels ravages qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol, lavé comme une grève, le mystique aliment qui ferait leur rigueur. Ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. » Un exemple typique de cette poésie, c'est cette maladie, encore une fois, je redis, qui consiste à imaginer que tout va être bien et hypermétropie, tomber justement sur quelque chose qui va complètement déstabiliser le poète. C'est toujours... Le poète est souvent comme ça. Là où certains voient le bonheur et compagnie, le poète, par sa prédestination, le poète voit le mal. Regardez ce poème, ou écoutez ce poème. Ça commence comme une petite promenade à la campagne avec la femme aimée, et tout va bien. Et sur quoi tombe le poète ? Sur une charogne. Et ça va entraîner un délire morbide contre lequel Baudelaire ne peut pas lutter, et c'est un poème relativement long. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Et le dernier quatrain. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Curieuse déclaration d'amour. Un autre exemple de cette disposition au malheur. On peut imaginer une cour dans laquelle une charrette a apporté des stères de bois et qu'on est en train de décharger ces bûches qui tombent sur le sol avant d'être remisées dans une cave en attendant l'hiver confortable où elles brûleront dans une cheminée. Et Baudelaire entend. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé, et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? C'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. Il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Et son esprit est en permanence torturé dans cette direction-là. Toujours le bien qui se transforme en mal. Toujours l'idéal qui se transforme en spleen. Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver d'écouter près du feu qui palpite et qui fume les souvenirs lointains lentement s'élever au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse, la cloche au gosier vigoureux qui, malgré sa vieillesse alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente. Et là, d'un seul coup, mais, il y a comme s'il y avait un mais, moi, mon âme est fêlée. Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger, dans d'immenses efforts. Moi, comme une cloche fêlée, hein, moi, mon âme est fêlée. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Je continue avec peut-être ce fameux poème, Un voyage à Cythère. Pour le punir, après son... Ben pour le punir, oui. Pour tenter de le redresser, plutôt. Après son baccalauréat, à l'âge de 18 ans, le militaire, au pic, a décidé de l'envoyer expérimenter la vie et il l'a mis à bord d'un bateau à destination de Calcutta. Donc, ça faisait pratiquement une absence d'un an, hein, aller-retour. Et Baudelaire a donc fait ce grand voyage. Il n'ira pas jusqu'au bout. Hein, il s'arrêtera à l'île Maurice et à La Réunion. Et là, il s'embarquera pour revenir en France plus tôt que prévu. Donc Baudelaire a voyagé en bateau. On connaît ce poème, l'Albatros en particulier. Donc il a vu des îles, il a vu des terres, il a vu des oiseaux, il a vu la mer, etc. Donc un voyage à Cythère, c'est l'île grecque de Cythère. Le poème commence par de jolies choses. Mon cœur comme un oiseau, voltigé, tout joyeux et plané librement alentour des cordages, le navire roulait sous un ciel sans nuages, comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île, triste et noire ? C'est Cythère, nous dit-on, un pays fameux dans les chansons, Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre. Île des doux secrets et des fêtes du cœur, de l'antique Vénus, le superbe fantôme, au-dessus de tes mers plane comme un arôme et charge les esprits d'amour et de langueur. Et d'un seul coup, et encore j'ai sauté quelques quatrains, et d'un seul coup, mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches, nous vîmes que c'était un gibet à trois branches, du ciel se détachant en noir comme un cyprès. De féroces oiseaux perchés sur leur pâture détruisaient avec rage un pendu déjà mûr. Chacun plantant comme un outil son bec impur dans tous les coins saignants de cette pourriture. Les yeux étaient deux trous et du ventre effondré, les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices, l'avaient à coups de bec absolument châtré. Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes, le museau relevé, tournoyait et rôdait. Une plus grande bête au milieu s'agitait comme un exécuteur entouré de ses aides. Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau, silencieusement tu souffrais ces insultes en expiation de tes infâmes cultes et des péchés qui t'ont interdit le tombeau. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je sentis à l'aspect de tes membres flottants comme un vomissement remonté vers mes dents, le long fleuve de ciel des douleurs anciennes. Devant toi, pauvre diable, au souvenir si cher, j'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires des corbeaux lancinants et des panthères noires qui jadis aimaient tant à triturer ma chair. Le ciel était charmant, la mer était unie, pour moi tout était noir et sanglant désormais. Hélas, et j'avais comme en un suaire épais le cœur enseveli dans cette allégorie. Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon corps et mon corps sans dégoût. Et ces poèmes de vers la fin des Fleurs du Mal, le dernier chapitre des Fleurs du Mal s'appelle Révolte, où déjà, puisque les Fleurs du Mal sont publiées en 1857, donc déjà c'était à ce moment-là, Baudelaire est là de la vie. Il a mal vécu toute sa vie. Il a travaillé, on ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Il a beaucoup, beaucoup écrit. Il a publié de nombreux poèmes dans des revues. Il a publié des articles, mais tout ça ne lui rapportait pas beaucoup d'argent. Et à l'âge de 20 ans, à l'âge de 18 ans, lorsqu'il a eu son bac, donc il a reçu l'héritage de son père. Mais lorsque il a eu cet héritage, il l'a dépensé à une vitesse énorme, une très grande vitesse, puisque au bout de 2 ans, il avait déjà dépensé la moitié de son héritage. Et donc là, Madame Hopic, sa mère, et sur les conseils sûrement aussi de Monsieur Hopic, lui ont mis une tutelle, hein, qui a fait que Baudelaire n'a pu toucher tous les mois qu'une somme infime pour qu'il ait de l'argent tout le reste de sa vie. Et donc Baudelaire, toute sa vie, a manqué d'argent. Il dépensait sûrement aussi beaucoup trop en opium, en hashish, en vêtements. On a relevé de ses dépenses chez le tailleur. C'était aussi un dandy, hein, qui aimait être bien habillé, etc. Il dépensait son argent aussi avec des prostituées. Et donc, toute sa vie, il réclame de l'argent. Il y a une lettre alors qu'il a, il a 42 ans. Il va vendre toute son œuvre. Hein. Il a tout vendu pour gagner de l'argent. Il a mal vendu l'ensemble de son œuvre, il a donné les droits, hein, les droits des Fleurs du Mal, les droits des traductions d'Edgar Poe, les droits de Mon cœur mis à nu, les droits des paradis artificiels, les droits des petits poèmes en prose. En 2 mots, voilà la chose, j'ai vendu d'un coup 25 000 francs en échange de l'aliénation totale, absolue, à tout jamais, de mes droits d'auteur sur mes œuvres telles qu'elles sont actuellement. C'est-à-dire 10 volumes. J'en ai ajouté 2 nouveaux. Et malgré tout ça, il manque toujours d'argent. Et il en réclame. Il réclame de l'argent tout le temps à sa mère. Il en réclame à son demi-frère. On a une kyrielle de réclamations d'argent. Et donc, je disais que dans les Fleurs du Mal, on a ce poème où on sent déjà avant 1857, donc la lassitude de Baudelaire lorsqu'il écrit « Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissais-je juger du glaive et périr par le glaive, Saint-Pierre a renié Jésus, il a bien fait. » Et les derniers vers des Fleurs du Mal, 2 quatrains qui sont suivis du mot fin. C'est dans un chapitre qui s'intitule La mort. Et Baudelaire écrit: Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Ces vers très importants, hein, où on a une espèce de renoncement de Baudelaire à la vie et à la poésie, annonce une fin de vie qui sera encore plus misérable, puisque dans les dernières années de la vie de Baudelaire, il y a un accident cérébral, hein, qui se produit en 66, et il va mourir en 67, 1866-1867. Baudelaire s'est réfugié à Bruxelles, où il va détester, il a écrit des choses horribles sur les Belges, il est en grave difficulté financière, il a des dettes partout, et il publie Les Épaves, le titre en dit long, 23 poèmes qui ne vont pas lui rapporter grand-chose, et puis en 66, le 15 mars 66, il est frappé d'une attaque, et il fait une chute dans l'église de Namur, et il est à ce moment-là atteint d'une hémiplégie, avec aphasie et ramollissement cérébral. Et finalement, le 31 août 1867, Baudelaire meurt, et il est enseveli quelques jours plus tard au cimetière Montparnasse. Voilà, écoutez, je vous ai présenté mon Baudelaire. C'est un auteur, bien sûr, qu'il faut absolument lire. C'est un auteur passionnant, mais je le redis, c'est un auteur qui peut déranger et qui peut, parce qu'il est trop, à mon avis, trop peut-être trop clairvoyant, je le disais en introduction, trop hypermétrope, hein, quelqu'un qui voit trop.
Voilà, c'était la poésie chiche. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour la prochaine émission. À bientôt, chers amis.